Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si je vous dis métallurgie, vous pensez certainement à la sidérurgie et à ces bastions en Lorraine et au Creusot qui ont connu jadis leur heure de gloire au XIXe siècle. Aujourd'hui, la métallurgie ne se réduit pas à la simple exploitation de l'acier. On retrouve la métallurgie dans les alliages spéciaux pour l'aéronautique, l'électronique, le bâtiment, l'automobile, les TGV, le nucléaire, sans compter l'utilisation que nous en faisons dans notre vie quotidienne avec les canettes en aluminium de nos boissons ou encore l'ordinateur portable et ses circuits électriques. Vous l'aurez compris, la métallurgie est partout et l'industrie qui en découle demeure importante sur le plan économique, stratégique et technologique. Pourtant, la France, malgré ses activités de recherche et de développement en la matière, demeure à la traîne et c'est ce qui inquiète nos deux invités dans cette émission. Les usines ferment les unes après les autres, les grands centres de gravité s'éloignent de la France et les principales grandes écoles ont supprimé de leur programme la métallurgie en tant que science et technique industrielle. Pourquoi et comment garder une place dans ces innovations technologiques? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Yves Quéré et André Pinault. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Yves Quéré, on ne vous présente plus puisque vous venez souvent à Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, physicien, professeur émérite à l'École Polytechnique. André Pinault, vous êtes membre de l'Académie des technologies, professeur à l'École nationale supérieure des mines de Paris. Vous êtes métallurgiste. Vous avez tous les deux animé le rapport rédigé conjointement par vos deux académies, Académie des sciences et Académie des technologies, rapport intitulé « La métallurgie, science et ingénierie » sorti en décembre 2010. Et donc, j'ajoute ce point, donc je me suis basée sur ce document que l'on retrouve au format numérique sur le site de l'Académie des sciences. Messieurs, première question qui s'adresse à tous les deux. La métallurgie est-elle une industrie du passé ou du futur? Yves Quéré.
Les deux, mon colonel, si vous me permettez de vous appeler ainsi, les deux bien sûr. C'est une industrie, une activité du passé et d'un passé immémorial. Pensez à l'âge de fer, l'âge de bronze, donc la métallurgie est probablement avec l'astronomie l'activité de type scientifique ou technique la plus vieille de l'humanité. Donc elle est évidemment une industrie et une activité de recherche du passé. Mais elle est formidablement de l'avenir parce que là, vous avez eu une liste très complète, vous avez peut-être, je dirais, oublier les avions. Ça compte aussi dans la métallurgie. Donc, les métaux sont partout et ils sont de plus en plus partout autour de nous. Et comme vous l'avez très bien dit, la France a tenu un rôle très important dans les décennies, disons, passées, même les deux siècles passés, notamment en recherche, où nous avons eu des grands métallurgistes, des grands physiciens, des grands chimistes de la métallurgie. Et nous sommes très inquiets de voir que ce patrimoine superbe risque de s'effriter, voire de s'effacer.
André Pinault, sur ce point, donc c'est aussi une industrie du futur, bien sûr.
Bien sûr, et j'en veux encore pour preuve la crise que nous connaissons à l'heure actuelle et qui a été relayée par les médias sur les fameux, ou 17 très exactement, métaux et terres rares, qui se trouvent pour 98% en Chine, et dont l'approvisionnement a été coupé, ce qui nous pose énormément de problèmes. Ça va depuis les fameuses lampes que l'on a introduites à basse consommation jusqu'à des matériaux comme l'hafnium, que tout le monde n'a peut-être pas, disons, fréquenté tous les jours, mais qui est extrêmement utile quand on fait précisément des super alliages qui nous servent à faire ensuite des moteurs d'avion. Donc c'est effectivement un problème pour l'avenir.
Alors donnons peut-être quelques chiffres pour nos auditeurs internautes. La métallurgie concerne combien de personnes en France et par rapport à ses voisins européens, comment se situe-t-elle, Yves Quéré?
Juste tout d'abord, la question est évidemment pertinente, mais en même temps elle est très difficile parce que qu'est-ce qu'on appelle un métallurgiste? Nous avons essayé de définir dans le rapport un métallurgiste. Ce n'est pas si simple. Un métallurgiste, c'est-il un monsieur ou une dame qui touche des métaux? Bien sûr, mais est-ce que quelqu'un qui construit une automobile est un métallurgiste? Notre réponse est oui. Mais vous voyez que c'est évidemment le métallurgiste, c'est à la fois celui qui fabrique les aciers, les aluminiums, l'hafnium dont on parlait à l'instant, mais c'est aussi celui qui l'utilise. Donc voilà, c'est un peu difficile de définir les métallurgistes. Ceci étant, il y a des chiffres et on estime à 1 800 000 en France le nombre de salariés de la métallurgie. C'est énorme.
1 800 000, mais combien d'ingénieurs sur ces 1 800 000 personnes, André Pinault ?
Alors je vais affiner le 1 800 000 avant de répondre en termes de nombre d'ingénieurs. En métallurgie directe, disons pour produire les métaux et les transformer, c'est de l'ordre de 400 à 450 000 emplois directs et indirects. Donc c'est pas du tout négligeable. Et c'est un monde, il suffit de regarder autour de soi et de voyager un peu pour se rendre compte que la métallurgie fait vivre effectivement beaucoup, beaucoup de petites et moyennes entreprises qui transforment les métaux. Bien. Donc c'est pour ça que nous sommes inquiets de voir la métallurgie dans une situation difficile, parce que derrière, il y a dit très directement le problème de l'emploi.
Alors, une situation difficile. En préparant cette émission, vous m'aviez indiqué que l'industrie de la métallurgie en France était très importante. Je vais citer des chiffres qui émanent du discours de Nicolas Sarkozy en mars 2010 qui dit ceci. Aujourd'hui, en France, l'industrie occupe 13% de la population active. C'était encore 16% il y a 10 ans. Nous sommes le pays européen le plus désindustrialisé. L'industrie produit 16% de la valeur ajoutée française contre 23% en Italie et 30% en Allemagne. Comment on explique cette désindustrialisation peut-être plus importante en France que chez nos voisins européens ? Yves Kéry.
Yves, peut-être. Il y aurait peut-être un tout petit correctif concernant la Grande-Bretagne, qui elle aussi a subi une désindustrialisation extrêmement forte, peut-être encore plus forte que la nôtre. Ceci étant, la comparaison avec l'Allemagne est très très frappante et elle est tout à fait juste. Votre question, comment ça se fait-il ? Eh bien, nous l'avons entendu, nous l'avons lu dans nos journaux pendant 10 ans, 15 ans. Ceci remonte à environ, en effet, c'est très difficile à situer exactement, mais c'est une quinzaine d'années que des usines ferment, des usines partent à l'étranger, des usines s'expatrient et qu'elles ne sont pas remplacées. Elles sont remplacées en termes d'emploi par peut-être des personnes qui s'occupent de la finance ou du marketing, mais la production industrielle française a effectivement terriblement décliné. Et la métallurgie y est pour une bonne part.
Pour autant, la recherche, elle, est encore bien implantée en Europe. Quels sont les secteurs, concernant donc cette recherche en métallurgie, quels sont les secteurs qui sont bien typiques aux Français et qui restent encore le fer de lance de la France ? André Pinault.
Pour nous en tenir aux deux métaux, disons, qui sont les plus largement employés, à savoir l'acier et l'aluminium. On parlait de désindustrialisation. L'acier, c'est maintenant le centre de décision, n'est plus en France. Que c'est le groupe ArcelorMittal. Mittal se trouve en Inde.
En Inde.
Peut-être que les décisions se font plus à Londres, d'ailleurs, à la City qu'en Inde. Néanmoins, c'est très récent, c'est de 2006-2007, M. Mittal a décidé de maintenir le fort potentiel de recherche, qui est certainement le plus important que nous avons dans le monde, en France, très exactement, à Mézières-les-Metz, où là, nous avons entre 550 et 600 chercheurs. Vous posiez la question des ingénieurs. Ben là, ce sont essentiellement des ingénieurs. J'y étais encore la semaine dernière. Et ben donc, la recherche, on a décidé de la maintenir en France, en liaison, bien sûr, avec d'autres centres de recherche qui appartiennent au groupe Mittal, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent à Chicago. Et nous avons à ce moment-là des conférences... disons, en utilisant les moyens de communication modernes. Le deuxième métal, c'est l'aluminium. Je ne sais trop comment appeler le groupe. Pour simplifier, appelons Pechiney. Pechiney, Vorep, pour nous, métallurgistes, c'est tout un symbole, parce que nous avons connu la création du centre de recherche de Vorep, qui, curieusement d'ailleurs, était faite par des gens qui venaient de la sidérurgie. Et là, il a bien été décidé de maintenir, au moins pour tout ce qui est des alliages de l'aéronautique, où il y a une bagarre très importante à l'heure actuelle, au niveau technologique, entre les composites et les métaux, de maintenir toute l'activité de recherche à Vorep. Donc le développement, je rassure les gens, le développement des alliages aluminium-lithium, puisque ce sont ces alliages-là auxquels on pense pour les nouveaux Airbus, c'est grâce à Pechiney et aux recherches qui sont faites à Vorep, en liaison bien sûr avec le monde universitaire.
Alors, du coup, la transition est toute trouvée. Vous me parlez en liaison avec le pôle universitaire. Pour pouvoir développer cette recherche et ce développement, il faut aussi des étudiants. Est-ce que vous êtes métallurgiste, André Pinault, ou est-ce que vous êtes une espèce en voie d'extinction ? Métallurgiste que vous êtes.
Alors moi-même, je pense que oui, je suis en voie d'extinction. Ça, il n'y a pas de doute à avoir. Alors ma profession, métallurgie, c'est un petit peu réducteur parce que Sans vouloir remonter aux calendes grecques, la métallurgie fait partie des sciences et génies des matériaux. Donc c'est un sous-ensemble. Ça n'est plus reconnu en tant que tel. Si on interroge les bases de données de l'éducation nationale et qu'on frappe métallurgie, la réponse est nulle. Si en revanche on frappe sciences et génies des matériaux, on obtient des réponses pour savoir combien il y a d'enseignants. Non, c'est pas du tout en extinction, c'est à espérer, parce que sinon, il y a vraiment des soucis à se faire pour avoir des trains qui arrivent encore plus souvent à l'heure qu'ils n'arrivent à l'heure actuelle, avoir des rails qui tiennent pour faire rouler ces trains, avoir des avions qui... Savez-vous que les statistiques montrent que c'est inéluctable ? Nous allons avoir, quand nous aurons une flotte de 25 000 avions, un crash en moyenne par semaine dans le monde. Eh bien, je pense que les gens de la métallurgie peuvent contribuer à diminuer, en faisant précisément, disons, des alliages qui nous permettent d'éviter tous les accidents, les problèmes de fatigue, et Dieu sait si c'est un monde où nous en avons rencontré beaucoup. Donc, c'est un monde d'avenir. Donc, si quelques individus sont en période d'extinction, je ne pense pas que la discipline le soit.
Alors, permettez-moi d'insister un peu lourdement, pas sur la voie d'extinction, mais sur ces étudiants. Dans votre rapport, vous écrivez ceci: les principales grandes écoles ont supprimé de leur programme la métallurgie en tant que science et technique industrielle, car l'attractivité des disciplines industrielles est faible. Ceci est lié essentiellement à l'extrême diminution des emplois régulièrement depuis l'année 2000 et qui s'accélère depuis 2008. Ceci est également dû aux moindres rémunérations qui se pratiquent dans ce secteur. Et là, je me tourne vers vous, Yves Quéré.
Vous tournez vers moi et je ne peux qu'acquiescer ce que vous venez de lire, évidemment. Nous avons connu, André Pinault et moi, ce déclin dans ces, disons, 15 dernières années à peu près. Dans les grandes écoles où nous avons enseigné, l'école des mines, l'école polytechnique, etc., etc., la métallurgie en tant que telle, ou science des matériaux parfois, suivant le nom, peu importe, était enseignée. Elle ne l'est plus maintenant que dans quelques rares endroits, l'école des mines justement, à Grenoble. On pourrait citer deux ou trois écoles, deux ou trois centres universitaires, mais ce n'était pas deux ou trois, c'était 15, 20. On enseignait la métallurgie partout, on l'enseignait à Poitiers, à Marseille. Il y avait donc cette école dont nous parlions tout à l'heure, très forte, française, très forte, de théorie, de pratique expérimentale. Des personnages comme André Guigné ont joué un rôle considérable dans la métallurgie, Jacques Fridel, Castin, qui a inventé un outil merveilleux qui est la sonde dite de Castin. Tous ces grands personnages ont fait vivre, ont finalement suscité ces enseignements, et ces enseignements ont été florissants. Et comme vous le lisiez, vous le disiez à l'instant même, c'est vrai que les étudiants sont... D'abord, beaucoup de professeurs sont partis à la retraite, et puis les étudiants sont attirés par autre chose. Il faut reconnaître qu'ils sont attirés par autre chose qui est plus rémunérateur. C'est vrai qu'un ingénieur de fabrication est un monsieur ou une dame qui ne touche pas des sommes considérables par rapport à son petit camarade de la même école qui a fait, par exemple, de la finance. Donc nous sommes devant une situation beaucoup plus générale ici que simplement la métallurgie, qui est une désaffection considérable des étudiants, on dit souvent pour les sciences, mais disons ici plus spécifiquement pour les techniques.
Alors, les aciéries sont maintenant essentiellement dans les pays émergents, en Chine, en Inde.
Oui, alors, il y a un problème de quantité et de qualité. La France ne prétend pas, donc pas du tout dans notre rapport, souhaiter que la France remonte immensément dans le domaine des tonnages. Les tonnages de la France étaient, même dans ces années que nous disions relativement glorieuses, étaient relativement modestes. La Chine... Je ne sais pas, André, combien de fois plus
400 millions de tonnes.
400 millions de tonnes, et nous, à peine petite, 20 millions. 20 millions. Vous voyez, c'est absolument sans commune mesure. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que si ces 20 millions de tonnes sont d'une qualité exceptionnelle pour fabriquer des voitures qui, dans un accident, n'ont beaucoup moins d'accidents, c'est ça qu'il faut susciter et conserver. Donc la France doit, nous le disons quelque part, je crois, viser à une position d'excellence et non pas une position de quantité.
Mais donc ces productions très importantes, comme vous venez de le signaler, donc en Chine, en Inde, ces productions ne vont peut-être pas forcément attendre des ingénieurs français pour pouvoir travailler sur ces productions.
Donc peut-être, non, c'est vrai.
Peut-être qu'à terme, voilà, les Français vont peut-être petit à petit se replier sur eux-mêmes par à défaut d'autre chose.
Ce serait une grave erreur. Et nous pensons précisément, et c'est ce que nous avons essayé de faire ressortir dans ce rapport, en seconde lecture, je veux bien l'admettre, que notre pays, fort de tout ce passé que nous avons dans le domaine de la métallurgie, fort du fait que nous avons encore beaucoup de compétences, peut précisément jouer un rôle au niveau mondial extrêmement important dans le domaine de la formation. Nous recevons dans tous nos laboratoires, mais c'est vrai dans toutes les disciplines, mais en particulier dans le domaine de la métallurgie, beaucoup d'étudiants chinois. On commence à voir les Indiens arriver, qui viennent se former en France. Et je crois qu'il n'y a pas à avoir peur, il faut savoir transmettre pour précisément interagir avec tout l'ensemble du monde. Tout à l'heure, j'aurais revenir sur le fait qu'on a l'impression, et c'est vrai, qu'il y a de moins en moins d'étudiants intéressés par la métallurgie. Ça tient aussi un peu au fait que cette discipline est difficile. Pour être un bon métallurgiste, je pense qu'il faut encore plus d'années que pour faire un bon chirurgien. On est bon métallurgiste en commençant ses études à 22, 23 ou 24 ans qu'à 32, 33 ans. Dans le domaine de la finance, je pense que ça va beaucoup plus vite. On a l'impression, tout du moins, qu'on arrive à avoir une vision globale du système beaucoup plus vite que dans nos métiers qui demandent, disons, de dominer énormément de disciplines, allant depuis la physique, la chimie et sans oublier l'économie, parce que les aspects économiques sont terriblement importants. Désolé de revenir un peu, mais ça explique peut-être pourquoi la métallurgie est dans une situation où elle attire un petit peu moins de gens, parce que c'est difficile de transpirer, et ce longtemps.
Alors si vous voulez bien, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Rencontrez le prix Nobel de médecine 2008, le professeur Luc Montagnier, membre de l'Académie des sciences. Célèbre pour avoir été le directeur du laboratoire qui a découvert en 1983 le VIH, virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, le professeur Montagnier revient pour nous sur ses découvertes, nous livre ses opinions sur la médecine d'aujourd'hui et revient sur son rôle dans la libération des infirmières bulgares en Libye. Une émission en habit vert à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Suite de notre émission consacrée à la métallurgie, sciences et ingénierie, c'est aussi le titre du rapport rédigé conjointement par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies et dont les animateurs sont avec nous en studio, André Pinault et Yves Quéré. Dans cette deuxième partie d'émission, j'aimerais que nous nous intéressions plus particulièrement aux alliages, car métallurgie va avec alliage. Des alliages très différents, on en a parlé rapidement pour les emballages, les canettes de boissons, mais les alliages sont aussi nécessaires dans d'autres domaines, dans les transports, pour le transport TGV, routier, maritime. Par quoi pourrions-nous commencer ? Peut-être par les transports routiers et les voitures qui utilisent bien sûr l'industrie, la technologie de la métallurgie pour pouvoir nous faire des voitures qui consomment toujours moins, parce que moins lourdes. André Pinault.
Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. La grande direction, l'axe technologique, c'est la réduction du poids des véhicules. Cette réduction du poids des véhicules peut être obtenue par un meilleur dessin du véhicule et par l'utilisation de matériaux qui ont un rapport, ce qu'on appelle la résistance spécifique, c'est-à-dire la résistance divisée par la densité, qui s'y prête le mieux. Bon, il faut savoir que pratiquement, les automobiles utilisent encore beaucoup d'acier. Et pratiquement, tous les 3 ou 5 ans, les aciers qui sont utilisés au bout de 3 ou 5 ans, pour la moitié, sont des aciers qui n'existaient pas. Donc, nous parlions en début d'émission sur le fait, est-ce que c'est quelque chose qui est vivant ou pas, la métallurgie ? Je rassure, c'est bien vivant. Personnellement, j'ai été sauvé par le développement d'alliages que j'ai contribué à développer, puisque j'ai eu deux crashs frontaux à 70 km/h. J'aurais eu une voiture conçue il y a 20 ans, je pense que je ne serais pas là pour parler avec vous. Eh bien, vous voyez, je suis bien là et ce n'est pas un clone. Et la bonne histoire, c'est que j'ai été sauvé par le dessin des véhicules, la tenue au crash et ces aciers à très haute résistance. Bon, je ne veux pas m'embarquer trop dans les chiffres, mais enfin, j'ai passé encore deux jours la semaine dernière en travaillant avec les gens d'ArcelorMittal pour voir une problématique que nous avons de plus en plus dans le domaine de l'industrie automobile, c'est comment assembler des matériaux de nature différente, y compris des aciers de nature différente. Évidemment, l'acier qui est utilisé pour faire l'extérieur de la voiture, ce n'est pas celui qu'il y a dessous et qui sert à nous protéger en cas de situation très désagréable. Donc l'industrie automobile, un autre exemple. Maintenant, dans une voiture, vous avez pratiquement l'électronique que vous aviez dans le Concorde. C'est faramineux. Et donc, derrière, vous avez des tas d'automatismes. Vous avez des tas de moteurs électriques. Vous avez, sur une voiture moderne, sans être une voiture très riche, de l'ordre de 20, 30, 40, 50 petits moteurs. Et nous avons ces petits moteurs essentiellement grâce à un alliage qui a été développé par les métallurgistes, qui a des propriétés magnétiques extrêmement intéressantes et qui nous permet de faire de tout petits moteurs avec des puissances très très importantes. Ça arrive dans les bicyclettes. Nous avons maintenant des bicyclettes électriques. Nous les devons aux métallurgistes qui ont développé les alliages. Bon, alors je ne veux pas trop insister lourdement parce que je crois que je vais tout ramener à la métallurgie.
Un autre transport qui utilise beaucoup la métallurgie, c'est l'industrie maritime. On n'y pense pas forcément comme ça en discutant autour de cette table, mais le transport maritime consomme également beaucoup d'acier pour le coup. C'est plutôt l'acier,
bien sûr.
Yves Quéret.
Bien sûr, un bateau c'est d'abord de l'acier. Et ces aciers doivent être très bien maîtrisés. On connaît tous, pas tous peut-être, mais beaucoup se rappellent vaguement, en tout cas, les accidents qui ont eu lieu avec ce qu'on appelait les Liberty Ships, qui étaient les bateaux américains qui transportaient du matériel, par exemple, en Russie, pour aider les Russes dans les années 42-43. Eh bien, ils passaient dans des mers froides et ils se cassaient comme du verre, parce qu'on n'avait pas fait attention à quelque chose qui s'appelle la transition ductile-fragile, fragile-ductile, etc. Donc, les aciers des bateaux doivent être importants. Mais je vous donnerai simplement un petit exemple où la France est complètement en pointe. Ce sont les alliages pour les méthaniers. C'est une classe de bateaux auxquels on ne pense pas beaucoup parce qu'on ne va pas sur les méthaniers comme on va sur des bateaux de croisière. Mais les méthaniers, c'est très important. Ils ont des énormes cuves pour le méthane liquide, c'est-à-dire un produit qui est à très très basse température, et on ne va pas mettre n'importe quoi. Il faut mettre des alliages, justement, qui ont un coefficient de dilatation thermique quasi nul, ou très très faible. Eh bien, ça, voilà un matériau qui est pratiquement, je crois, exclusivement français. Vous voyez, donc, bien sûr, vous avez raison de mentionner les bateaux. C'est du métal avant toute chose. Les avions, ô combien.
Les avions, les TGV aussi, qui font appel aussi à l'industrie métallurgie. Et puis, un autre domaine où on utilise la métallurgie, c'est pour le nucléaire. Alors, j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Quels sont les alliages qui sont utilisés justement pour construire les réacteurs des centrales nucléaires?
On peut dire d'abord qu'un réacteur nucléaire, c'est d'abord de la métallurgie. Il y a évidemment aussi ce qu'on appelle de la neutronique, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment les neutrons se promènent dans un réacteur, mais c'est un assemblage essentiellement métallurgique avec des métaux, pour la plupart, tout à fait extraordinaires. On appelle ça souvent des métaux exotiques, ça n'a rien du tout d'exotique au sens climatique du mot. Mais voilà un métal, par exemple, qui est très important, c'est le zirconium. Alors pourquoi le zirconium est-il si important dans un réacteur nucléaire? C'est tout simplement qu'il n'absorbe pas les neutrons. S'il absorbait les neutrons, on aurait un déficit en neutrons, et il ne faut pas avoir un déficit en neutrons. Donc on a des tas de contraintes qui ne sont plus tout à fait métallurgiques, qui sont neutroniques. C'est passionnant. La métallurgie d'un réacteur est absolument passionnante parce qu'elle mêle plusieurs grands chapitres de la science. Alors voilà, les réacteurs, en tout cas nos réacteurs actuellement, fonctionnent tout de même très remarquablement, et c'est beaucoup par un effort très 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 poursuivi, notamment par le CEA dans les années 60-70, qui ont développé ces fameux métaux dits exotiques, sans parler de métaux moins exotiques comme les aciers.
Et pour aller dans votre sens, André Pinault précisait au cours de la pause que le développement du nucléaire et de la métallurgie était conjoint, était parallèle.
Ah oui, c'est très très clair. C'est très clair. J'ai parlé de l'hafnium. Alors l'hafnium sert dans les barres de contrôle pour le flux neutronique. Si nous n'avions pas les aciers inoxydables, qui ont été en grande partie inventés en France. Vous faisiez au début de l'émission mention au fait qu'en France, nous avions un long passé. Eh bien, si nous n'avions pas toutes ces nuances d'acier inoxydable, tout ce que l'on voit à l'intérieur d'un réacteur qui est quand même assez complexe, nous serions très très gênés. Nous n'aurions pas des durées de vie comme nous avons à l'heure actuelle et comme on peut espérer encore, puisqu'on parle d'extension de durée de vie. Donc tous ces alliages, il faut en connaître les faiblesses. Et l'enjeu du nucléaire, et c'est là que c'est très difficile, c'est, quand on est métallurgiste, c'est de prévoir à partir d'essais de laboratoires qui, bien naturellement, sont faits durant des périodes limitées, prévoir le comportement des matériaux sur des durées de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est là qu'il nous faut absolument avoir des gens qui ont une solide formation. Parce que le choix des matériaux ne se fait pas comme le doigt mouillé au vent. Ça présuppose énormément de connaissances dans le domaine, bien évidemment, de l'élaboration, mais dans le domaine de la physique du solide, pour savoir exactement ce qui se passe. Dans le domaine de la corrosion, dont on ne parle jamais assez. Et ces phénomènes de corrosion, alors tout le monde, quand on parle de corrosion, voit l'épaisseur de rouille qui se détache sur les bâtiments. À cette échelle-là, c'est infiniment plus fin, ça se passe, on le sait, à quelques distances interatomiques. Et ce qui se passe à un joint de grain, puisque nos matériaux ont des joints de grain, ben, il faut vraiment aller regarder en détail, d'où l'explosion des nouvelles techniques. Un métallurgiste doit connaître aussi toutes les techniques expérimentales, et Dieu sait, rien que pour connaître ça, il faut vraiment lire beaucoup, fréquenter beaucoup de gens, parce que les technologies explosent à l'heure actuelle. On a des microsondes maintenant qui nous permettent de déterminer les compositions pratiquement atome par atome, et nous avons besoin de ça.
Yves Quéré, vous souhaitez rajouter un élément ?
Juste un mot, on peut difficilement ces jours-ci parler du nucléaire sans évoquer bien sûr ce qui s'est passé au Japon. Et juste ceci pour dire que tout ce que nous savons de l'accident des réacteurs japonais montre que la métallurgie de ces réacteurs n'est pour rien dans ces accidents. La métallurgie, les métaux, et en particulier la cuve, qui est un élément essentiel d'un réacteur, c'est comme une grosse casserole qui tient le réacteur, autant qu'on le sache, n'ont absolument pas faibli. Donc voilà un cas important à reconnaître ici sur la tenue des matériaux dans les réacteurs nucléaires, des matériaux métalliques.
André Pinault, vous parliez en fait de la durée de vie des matériaux, du réacteur, de la structure. C'est assez délicat de parler justement de la durée de vie des matériaux, justement des centrales nucléaires. Est-ce qu'on avance justement sur ce sujet-là ?
La problématique du calcul de la durée de vie, la durabilité, si on veut traduire le terme anglais, est une problématique qui est apparue il y a simplement 15 ou 20 ans, qui, pour pouvoir être abordée en termes techniques et en termes scientifiques, présuppose mais vraiment beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances, alors si Yves Quéré faisait allusion à la tenue de la cuve, beaucoup de connaissances par exemple dans le domaine de la thermique, dans le domaine de la mécanique. Il faut être un bon scientifique, un bon ingénieur, pour dominer toutes ces disciplines. Et le nucléaire paraît évidemment important, mais il ne faut pas oublier que quand on conçoit un avion, c'est pour 40 ans. Donc tous ces problèmes de durée de vie d'une génération, presque deux générations, on les rencontre dans tous les domaines. Et il nous faut impérativement former des gens qui aient une culture, c'est pour ça que je parlais qu'il fallait plus de temps pour former un métallurgiste qu'il n'en faut pour former un chirurgien. Et un petit peu comme les chirurgiens modernes, ils doivent être en mesure de bien posséder tous les outils. Il nous faut énormément de temps pour former ces gens-là. Sinon, nous ne pouvons pas faire des choix raisonnés, et c'est bien ça ce qu'il faut faire.
Dans votre rapport, on ne va pas l'aborder ici dans cette émission, mais j'espère que nos internautes, auditeurs, auront l'occasion d'avoir ce rapport entre les mains. Donc il y a aussi les alliages consacrés à l'emballage, comme on a pu le citer au tout début de cette émission. Également les biomatériaux métalliques, ces petits implants métalliques que l'on peut avoir lorsque l'on se casse un poignet, par exemple, ou une prothèse de hanche. Et puis il y a également la microélectronique, qui est très présente dans notre vie quotidienne, une industrie emblématique des technologies de pointe. Voilà pour les cités. On va avancer, si vous voulez bien, vers les recommandations. Vous avez émis toute une série de recommandations. J'aimerais que l'on en parle. J'imagine que ce sont des recommandations essentiellement tournées vers les étudiants et les jeunes pour ouvrir de nouveau des carrières consacrées à la métallurgie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Yves Quéré, peut-être ?
Oui, vous avez raison. C'est une recommandation qui peut prendre des effets immédiats. Si nous faisons des recommandations sur le plan industriel, c'est en général de longue haleine. Et puis, ça nous concerne moins que, en effet, les problèmes d'enseignement. Donc, nous recommandons un redémarrage très volontariste de la part des ministères, un redémarrage des ministères et des organismes de recherche, un redémarrage de l'activité de recherche en métallurgie. Il est symptomatique qu'en France, et ceci n'est pas récent, qu'en France, le mot métallurgie, tu l'as dit André tout à l'heure, n'est pas bien reconnu, et notamment par des organismes très importants comme le CNRS, il n'y a pas une section de métallurgie. Vous voyez, la métallurgie émarge un peu à la chimie, un peu à la physique, elle est un peu partout et elle est nulle part finalement. Donc nous voudrions que la métallurgie soit véritablement une discipline reconnue en tant que telle, comme grande discipline à la fois scientifique et technique, et que, comme on le disait tout à l'heure, partent les enseignements de métallurgie. Alors, de façon très immédiate, nous pouvons, alors avec ce que nous avons, on a quand même des très beaux restes d'enseignants, nous voudrions redémarrer ce qu'on a appelé les écoles d'été. Vous voyez, ça c'est une décision facile à mettre en route, ce qu'on appelle des écoles d'été pour des jeunes, alors pour des jeunes étudiants ou des jeunes docteurs, des écoles d'été de métallurgie. Nous voudrions que les ministères, ça c'est un tout petit peu plus longue haleine, définissent quelques pôles, trois par exemple, 2, 3, 4, 3, disons, pôle d'excellence de métallurgie. Et notre ministre, Mme Pécresse, a annoncé très récemment qu'elle envisageait sérieusement cette recommandation, ce qui prouve qu'elle a lu ce rapport avec soin. Donc voilà, un gros effort sur l'enseignement. Un gros effort qui est très très connecté sur la recherche, et notamment sur la recherche publique, puisque la recherche privée est encore de bonne, non seulement de bonne qualité, mais de bonne quantité aussi. Voilà les toutes premières recommandations que nous pourrions faire. Mais il y en a d'autres, André.
André Pinault.
On a fait des recommandations après qui sont d'ordre beaucoup plus, j'allais dire, politique, au bon sens du terme. L'implication privée-publique. Donc ça, c'est un domaine où le pays a évolué durant les 4, 5, 6 ans qui viennent de s'écouler. Et pourquoi ne pas prendre les bons exemples qui marchent, qui l'ont montré, et l'appliquer dans le domaine de la métallurgie? Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La difficulté dans le domaine industriel tient au fait que, j'allais dire, les deux grands ténors, l'acier et l'aluminium, les centres de décision ne sont plus français. Donc nous allons sur, il y a quand même une activité qui est d'ordre privé, qui fait vivre plus de 5000 personnes, c'est le groupe Aubert et Duval, avec l'ensemble Eramet, parce que quand on s'occupe de métallurgie, il faut aussi, on en y a fait allusion, se préoccuper des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Nous allons regarder cette affaire, et en particulier, nous pensons que le problème du recyclage, qui retourne autour du développement durable, a été examiné dans le pays, mais doit être réexaminé. Il y a vraiment quelques chiffres qu'il faut toujours avoir présents à l'esprit. Nous exportons 3 à 4 millions de tonnes de ferraille qui vont en Chine, en Inde, on ne sait où, et nous réimportons de l'acier à béton. Nous exportons une valeur ajoutée, j'allais dire un peu bêtement. Ce que je viens de dire pour l'acier est encore plus criant dans le domaine de l'aluminium. L'aluminium, il nous faut pour vivre en France de l'ordre de 1,2 million de tonnes par an. Nos capacités de production ne sont que de, avec l'usine de Dunkerque et de Saint-Jean-de-Maurienne, 400 000, 450 000 tonnes. Donc vous voyez, il y a 800 000 tonnes que nous devons importer. Or, nous exportons, sous forme d'aluminium recyclé, alors les chiffres ne sont pas très faciles à obtenir, mais c'est entre 400 000 et 600 000, 700 000 tonnes. Donc nous exportons de la valeur ajoutée, et puis ça nous revient sous forme d'alliage, de deuxième fusion. Mais c'est suffisant pour faire un carter d'une voiture, peut-être pas la culasse, mais pour faire le carter, c'est suffisant. Il y a vraiment un non-sens économique dans le domaine du recyclage et qui va bien dans toute la problématique du développement durable. Donc il faut que le pays se ressaisisse, c'est ce que nous avons mis dans le rapport et travaillé ensuite, parce que quand on a écrit, il fallait mettre à un moment donné le point final, mais lorsque nous avons continué de réfléchir en nous entourant de l'avis des industriels, ce problème du recyclage, nous le mettons très en avant.
Effectivement, donc on n'en a pas parlé au cours de cette émission, et j'en suis bien désolée, la partie recyclage est effectivement très importante dans votre rapport. Nous arrivons au terme de notre émission, donc je me permets de rappeler le titre de votre rapport, La métallurgie, sciences et ingénierie, sous votre direction André Pinault et Yves Quéré, un rapport conjoint de l'Académie des sciences et l'Académie des technologies, publié en décembre 2010. Merci à tous les deux, et je précise pour nos auditeurs que l'on retrouve sous format numérique ce rapport sur le site de l'Académie des sciences, et le rapport est gratuit. Merci à tous les deux d'être venus nous voir, et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci. Merci.